substance hautement toxique et particulièrement addictogène dont un tiers des Français abusent à raison de 4 fois la dose quotidienne recommandée, ce qui a des conséquences catastrophiques en termes de santé publique. Cette substance, c'est le sucre. Autre sujet, c'est une promesse de l'informatique qui remonte à près de 50 ans, mais qui est relancée en ce moment, un ordinateur qui calcule avec de la lumière, l'ordinateur photonique. Et enfin, une très large majorité des tests cliniques et pharmaceutiques seraient biaisés et pour cause. La plupart des médicaments sont testés exclusivement sur des sujets masculins. Les dangers du sucre, l'ordinateur photonique et le machisme en recherche pharmaceutique, ce sont quelques-uns des principaux sujets que nous allons aborder dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour cette dernière table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche de la saison, les toxicomanes de la vulgarisation réunis autour de la table aujourd'hui sont Caroline Tourbe, bonjour.
Bonjour.
Responsable des pages santé de notre partenaire Cheryl, le magazine Science et Vie. Bonjour Philippe Pajot.
Bonjour.
Du magazine La Recherche et Antonio Fischetti, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue autour de la table de la méthode scientifique. Vous êtes chroniqueur scientifique à Charlie Hebdo. Vous venez de réunir certaines de vos chroniques L'Empire des Sciences dans un volume édité chez Belin et illustré par Faujour, Charlie au labo. Vous pouvez suivre, vous le savez, comme chaque jour, cette émission en direct sur le fil Twitter de la méthode scientifique en vous abonnant au compte @laméthodefc. Mais avant de plonger dans vos sujets respectifs, lui carbure à la science pure, non coupée, pour nous fournir toutes les semaines son journal des sciences, c'est Xavier Martinet. Bonjour.
Bonjour Nicolas.
Le journal des sciences.
Il ne vous aura pas échappé qu'il a fait un petit peu chaud cette semaine. Eh bien, accrochez-vous, ce n'est rien par rapport à ce qui est à venir. Près de 50% de la population mondiale sera exposée à des vagues de chaleur mortelles en 2100. Ce sont les résultats de la première étude sur le sujet. Elle n'est pas très optimiste, c'est le moins qu'on puisse dire, Xavier.
Oui, pas du tout, puisque près de 50% de la population exposée, vous l'avez dit, si la communauté internationale arrive à suivre les objectifs de l'accord de Paris de réduction des gaz à effet de serre, mais ce sera près d'un tiers de la population, si rien effet, donc en 2100. Ce sont les résultats de cette étude américano-britannique publiée cette semaine, la première du genre, à cartographier en quelque sorte le risque à l'échelle mondiale et avec de nouveaux moyens d'évaluer ce risque, pas seulement en fonction de la chaleur, mais aussi de l'humidité. C'est important puisque c'est le couple humidité-chaleur qui est déterminant, si bien que les zones très humides, tropicales et urbaines seront les plus exposées. Écoutez l'auteur de l'étude, Camilo Mora, du département de géographie de l'université de Hawaï. Pour lui, en fait, c'est tout simplement le choix entre le pire et la catastrophe.
Pour le moment, 30% de la population est exposée à un risque d'au moins 20 jours par an de dépassement du seuil de chaleur mortelle. Il y a eu beaucoup de tentatives pour essayer de quantifier le risque global lié aux vagues de chaleur. Le problème, c'est qu'ils se sont fondés uniquement sur des critères standards, en gros la température, alors que selon les endroits où on se trouve sur Terre, la température à laquelle on risque de mourir est complètement différente. Par exemple, nous avons vu des endroits en Europe où des gens sont morts lors d'une vague à 23 degrés, alors qu'il y en avait d'autres où c'était à 33 degrés. En fait, on s'est aperçu qu'en général, les zones les plus humides peuvent être potentiellement plus mortelles, même à température plus basse. La raison est simple, c'est parce que le corps se refroidit en transpirant et grâce à l'évaporation de cette transpiration. Mais quand l'air est déjà saturé d'humidité, la sueur ne peut plus s'évaporer, vous ne pouvez plus rendre de chaleur, et même des températures assez basses peuvent vous tuer. Si vous voulez un exemple de seuil, nous avons trouvé un exemple de cas dans lequel une température de 23 degrés et une humidité de 80% ont été la cause de surmortalité. Bien sûr, c'est un problème pour un grand nombre de villes dans le monde, surtout celles qui sont plus proches des côtes, parce que la chaleur crée une évaporation intense sur les zones côtières, et c'est une combinaison de mauvais facteurs, la chaleur de la journée et une nuit plus fraîche qui fait encore augmenter l'humidité de l'air. Autant dire que dans ces endroits, les vagues de chaleur ne vous laissent aucun répit.
Voilà pour l'avenir optimiste. En bref, maintenant, Xavier, l'Académie des sciences a pris position cette semaine en faveur de la congélation d'ovocytes.
Eh oui, 54 voix pour, 12 contre, 22 abstentions quand même, pour cette autoconservation ovocytaire ouverte à toutes, donc une technique qui consiste à congeler très rapidement ces ovocytes avant la ménopause. Théoriquement, la possibilité donc de cette congélation existe bien légalement, mais sous beaucoup de conditions, et elle ne permet pas donc pratiquement d'avoir assez d'ovocytes pour assurer une bonne fertilité, disent les médecins. En tout cas, la décision du Comité national d'éthique intervient la semaine prochaine, le 27 juin.
Dans l'espace maintenant, la Chine a réussi une prouesse technologique. Elle a réussi à prouver que le cryptage quantique fonctionne à partir d'un satellite.
Oui, ce sont deux particules dont le comportement est indissociable et qui sont situées à 1200 km de distance, arrivées sur Terre. C'est le résultat de cette première expérience d'utilisation des propriétés quantiques de la matière à partir de l'espace. Une idée folle, hein, disait Jian Weipan, le chercheur qui a réalisé cette expérience à la BBC, pouvoir donc réaliser un cryptage quantique, c'est-à-dire utiliser ses propriétés de la matière, notamment le fait d'agir instantanément à distance pour fournir des messages inviolables pour les télécommunications. Alors, expérience déjà difficile sur Terre, la distance maximum qu'on avait atteint était, je crois, de 200 km. Cette fois, un laser a fait le travail à partir du satellite. 10 millions de paires de photons ont été envoyées, une seule a pu être observée.
Et on reste dans l'espace avec notre deuxième sujet de la semaine, avec cette réunion à Madrid du comité scientifique de l'Agence spatiale européenne, l'ESA. L'agence valide notamment deux grandes missions d'observation par satellite, Xavier.
Oui, ce comité scientifique se réunit à peu près tous les 4 mois. Il a décidé de valider la poursuite de 2 projets, effectivement. La première mission, c'est le LISA, qui touche à la recherche fondamentale, on pourrait dire, puisqu'il s'agit d'arriver à détecter les ondes gravitationnelles confirmées par des observatoires sur Terre depuis 2015, pour continuer donc à valider la théorie d'Einstein de la courbure de l'espace-temps par des masses importantes. Le problème, c'est que la portée de détection avec les appareils sur Terre, ces grands interféromètres laser, est limitée par leur taille, justement, puisqu'on mesure ces variations à la mesure de la distance entre les branches de l'interféromètre. Et bien là, ils vont être installés dans l'espace à 2,5 millions de kilomètres chacun, 3 satellites. L'objectif, c'est de dépasser la limite des 380 000 ans avant le Big Bang, limite visible donc. Cela donc avec les satellites les plus stables de l'univers. Écoutez, Fabio Favata, c'est le directeur de l'exploration scientifique et robotique à l'ESA.
Sur les ondes gravitationnelles, nous avons une technologie unique dans le monde. C'est une des raisons pour lesquelles on peut faire l'ESA et être les premiers à le faire. La vraie grande différence, c'est la fréquence dans laquelle on peut opérer. Au sol, vous êtes limité à découvrir des sources de radiation gravitationnelle petites. C'est pour ça que l'IGO a découvert des choses très intéressantes, ça veut dire des trous noirs de la masse, de quelques dizaines de masses solaires. L'ESA, dans l'espace, permettra d'étudier des fréquences beaucoup plus bas, ce qui permettra d'observer des trous noirs beaucoup, beaucoup plus grands, la masse à un niveau des millions de fois de la masse du Soleil. Ça veut dire que les sources observées pour LIGO sont des sources, disons, classe étoile, je les appellerai. Les sources qui vont être observées pour LIGO sont classe galaxie. Franchement, on observera les trous noirs qui habitent les centres presque de toutes galaxies connues. On pourra étudier comme ces trous noirs, sa distribution de masse, et on pourra étudier comme ils ont influencé la formation de notre univers. On aura beaucoup, beaucoup de détections. Là, je vous ai parlé des sources les plus spectaculaires. L'ESA va être capable de détecter une énorme variété de sources, aussi des binaires, des étoiles de neutrons. L'ESA va aussi être capable de détecter les mêmes types de sources que LIGO a vues, mais beaucoup plus tôt dans sa vie. Ça veut dire on atteint vraiment une fréquence de détection assez élevée. Ça va être vraiment une révolution de l'astrophysique.
Voilà, peut-être une révolution pour l'astrophysique en vue. En tout cas, côté budget, 1 milliard d'euros pour l'ESA. Et une deuxième mission validée par l'ESA cette semaine, c'est le programme Plateau pour 650 millions d'euros, celui-là.
Oui, alors pour l'ESA, il faudra encore 2 ans avant de démontrer certaines technologies. Mais Plateau est aussi une mission qui se veut innovante. Elle se place dans le courant de grandes recherches d'exoplanètes. Plateau pour Planetary Transit and Oscillations of Stars. C'est la méthode qui sera utilisée. Cela sera une plateforme d'observation par satellite encore, avec 26 petits télescopes construits par la Suisse sur un seul satellite. L'Université de Genève, qui était découvreuse de la première exoplanète il y a 22 ans, est elle chargée de l'observation. Alors aujourd'hui, on connaît 3600 exoplanètes. On a découvert les plus grosses au début, de plus en plus des planètes de taille comparable à la Terre, les plus probables d'être habitables. Le but donc est de continuer à découvrir ces planètes. Écoutez Pierre Bracci du département d'astronomie de Genève.
Plato va chercher des exoplanètes hein, autour d'étoiles brillantes, autour d'étoiles qui ressemblent à notre Soleil. C'est une méthode qui est utilisée, c'est une méthode indirecte. Elle a été utilisée largement par le satellite de la NASA Kepler, qui a trouvé plus de 2000 planètes avec cette méthode. Seulement, ça nous donne juste une idée de la taille et on n'a pas une idée de la masse. Et pour ça, nous, on est assez spécialistes depuis la première découverte pour calculer la masse. Et une fois qu'on a la masse et la taille, eh bien, on a la densité et on peut dire si c'est une planète rocheuse ou une planète gazeuse ou une planète liquide ou autre chose. Ça nous intéresse en plus de ça d'avoir des planètes autour d'une étoile qui est aussi vieille, entre guillemets, que le Soleil et qui permettrait éventuellement à la vie de se développer. C'est pour ça qu'une fois qu'on a trouvé les planètes avec Plato, eh bien, on va chercher à essayer de savoir de quoi elles sont faites. Et puis, si par hasard, alors là, ça serait vraiment le Graal, s'il y a une atmosphère, et ce qu'il y a dedans dans cette atmosphère. Puis la deuxième chose, on prend beaucoup de petits télescopes. Alors, pourquoi beaucoup de télescopes? Eh bien, ça permet d'avoir un grand champ dans le ciel et ça permet d'observer beaucoup d'étoiles à la fois. L'ambition de Plato, c'est quand même plusieurs centaines de milliers d'étoiles pendant 6 ans et demi pour essayer de voir aussi s'il y a des planètes qui tournent en plus qu'une année, 2 ans ou 3 ans autour de leurs étoiles.
En revanche, l'Union européenne suspend un projet conjoint de chasse à l'astéroïde avec la NASA.
Oui, le projet DART, l'idée pour les États-Unis était d'effectuer la première frappe spatiale sur un astéroïde pour essayer de voir si on pouvait dévier sa trajectoire. Pour l'Union européenne, elle devait documenter l'impact par des images en positionnant une sonde en 2020, donc 2 ans avant l'arrivée de la sonde de la NASA. La mission à 250 millions d'euros a été suspendue faute de financement. Elle est soutenue par le Luxembourg, mais les gros pays spatiaux européens ont refusé, peut-être parce qu'il y a déjà une mission vers un astéroïdes de la même sorte. En off, on nous dit que c'est plus compliqué.
Voilà, le CNES, lui, entérine plusieurs projets de coopération avec la NASA, dont 2 qui concernent Mars, Xavier.
Et oui, outre une mission de surveillance par satellite du niveau des eaux terrestres, là, le CNES et la NASA ont entériné au Bourget la fourniture cette année par la France de 2 types d'instruments pour 2 rovers de la NASA prévus pour 2018 et pour 2020. Il y aura un sismomètre pour la mission InSight qui étudiera le sous-sol de Mars l'année prochaine, donc, et puis une supercam, comme son nom ne l'indique pas, un super laser qui chauffe un point jusqu'à 8000 degrés, là pour fournir des informations capables de détecter des molécules organiques. Alors la conquête de Mars, c'est pour bientôt, on y croit, disait Jean-Yves Le Gall, le président du CNES.
Et d'ailleurs, Jean-Yves Le Gall que nous avions reçu ici, on va vous mettre tout de suite le lien vers l'émission sur le fil Twitter @laméthodefc de ce grand entretien avec le patron du CNES et futur patron du conseil de surveillance de l'ESA. Et pour finir, comme chaque semaine, Xavier, vous me promettez de me faire dilater les pupilles juste avec votre langage.
Et oui, je vais vous parler d'amour. En fait, c'est une étude de psychologie du langage avec une conclusion presque trop simple hein, quand on y pense. Quand on dit soleil, jour ou bien briller, eh bien, les pupilles de l'interlocuteur se dilatent. Ce sont les résultats d'une étude CNRS et d'université de Groningen sur 60 personnes afin donc de tester certaines hypothèses sur le langage. En fait, donc, on voit que des mots associés à la lumière produisent un véritable effet de dilatation sur les pupilles, hein, avec un pic une demi-seconde après leur prononciation et pendant 3 secondes environ. Que faut-il en conclure? Pour l'instant, les chercheurs supposent que le cerveau forme une sorte d'image mentale et que c'est donc sa visualisation qui aurait pour effet de rétrécir les pupilles, un peu comme en présence d'un surcroît de lumière. En tout cas, les mots neutres comme maison, renforcé ou lapin n'ont eu aucun effet. Voulez-vous qu'on essaye, Nicolas?
Mais je comprends mieux, en fait, comme vous nous éclairez toutes les semaines grâce à l'actualité des sciences. C'est pour ça que je vois flou à chaque fois pendant le journal des sciences.
Lapin. Parce que... lapin.
Les arrêter tout de suite. Merci beaucoup, Xavier Martinet. On vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain journal des sciences. On fait un petit tour de table. Caroline Tourbe, Philippe Pajot, Antonio Fischetti. Est-ce qu'il y a des sujets, Antonio Fischetti, qui vous ont interpellé ou sur lequel vous vouliez réagir
dans la semaine qui s'est passée.
Ou sur ce que vous venez d'entendre
ah,
là.
Ah oui, ah sur l'image mentale, oui, ça me plaît beaucoup hein, puisque donc effectivement quand on pense à une chose, hein, c'est un petit peu comme si enfin on était en face de cette chose. Moi, il y avait une étude qui m'avait marqué, c'était que si on imaginait par exemple qu'on effectuait des mouvements de sport hein, d'haltérophilie, eh bien finalement on gagnait en biceps et ça a été effectivement démontré par une étude très scientifique. Enfin, enfin ça me rassure parce que je me culpabilise toujours de pas faire assez de sport, donc j'imagine que je fais du sport comme ça pour devenir plus musclé.
Ce qui vous vaut ce corps d'athlète, hein. Caroline, peut-être un mot aussi, et c'est important, ou Philippe ou Antonio comme vous voulez, sur cette annonce, hein, cette validation par l'Académie des sciences, oui, sur la conservation, la congélation, pardon, de vos sites. C'était une annonce assez attendue, en attendant celle du Comité national d'éthique qui doit venir la semaine prochaine.
C'est une étape importante en effet, parce que pour bien comprendre, c'est que jusqu'à présent, donc la conservation des ovocytes par les femmes, c'était proposé notamment pour les femmes qui allaient subir des traitements contre le cancer, dont on estimait qu'il y avait un fort risque d'infertilité ensuite. Mais cette fois-ci, l'idée, c'est de proposer ça à toutes les femmes qui le souhaiteraient. Alors, c'est de le faire quand les ovocytes sont un meilleur état, c'est-à-dire avant 30 ans. À ce moment-là, elles congèleraient un stock qui pourrait leur servir si d'aventure, dans leur vie, elles ne faisaient pas d'enfants au meilleur moment de la fertilité. Alors, pourquoi c'est important? C'est que quelque part, ça repousse les limites biologiques de la fertilité féminine, ou en tout cas, ça permet d'augmenter les chances. Mais il y a quelque chose qui sera très important, et évidemment, je pense que chaque médecin aura à cœur de l'expliquer, c'est que c'est quand même pas une méthode, la congélation, qui marche à tous les coups. Le taux d'échec est extrêmement important. Donc, une femme qui prendrait cette solution de confort doit être informée du fait que ça n'est pas une solution qui gagne à tous les coups. Mais ça semble être vraiment un pas aussi vers une égalité des sexes, parce que l'accès à la fécondation in vitro pour les hommes est plus simple que celle des...
Bien sûr. Il faut préciser par ailleurs que la congélation d'ovocytes, que c'est une procédure médicale pas légère. Hein,
non, pas légère. Ça prend du temps, et que c'est
autorisé dans plusieurs autres pays, notamment dans d'autres pays européens comme la Grande-Bretagne.
Les femmes françaises le savent bien d'ailleurs. Il y a beaucoup de femmes argentées, c'est parce que ça coûte cher, qui vont en Espagne.
En Espagne.
Pour le faire.
Comme toujours. Une autre réaction,
oui, sur Lisa, effectivement. Donc ça, c'est une péripétie de plus, parce que initialement, effectivement, lorsque Lisa avait été décidée, il y avait les Européens et les Américains qui s'étaient mis ensemble. Et puis après, restrictions budgétaires oblige, les Américains avaient quitté le navire. Et puis, découverte des ondes gravitationnelles et le démonstrateur Lisa Pathfinder qui a réussi, les a fait à nouveau changer d'avis. Et ils sont remontés dans le bateau qui avance bien, et ils sont revenus. Et je suis très content de voir effectivement que ce projet va finalement, en tout cas, voir le jour dans sa configuration initiale, parce qu'il avait été revu un peu à la baisse, donc avec 3 satellites, où on mesure les distances précises entre les 3, ça va être extrêmement ambitieux, extrêmement intéressant.
Et avec surtout, peut-être au bout du parcours, la possibilité de remonter au-delà du fond diffus cosmologique, hein, au-delà de la barrière des 380 000 ans après le Big Bang.
Oui, alors là, je suis pas
vous
aussi...
Vous êtes moins enthousiaste.
En fait, effectivement, ce que va détecter Lisa, c'est plutôt des fusions de trous noirs très très massifs, mais ça, c'est plutôt ces choses qui se produisent après les 380 000 ans, après
il y a tout de même la carotte d'imaginer qu'on puisse éventuellement, alors c'est très putatif, capter les ondes gravitationnelles produites par le Big Bang.
Alors voilà, mais alors du coup, Lisa n'est pas tout à fait conçue pour ça. Ce qui devrait pouvoir, on pourrait détecter ces ondes-là en mesurant la polarisation du fond diffus cosmologique, et c'est plutôt les successeurs de Planck qui devraient pouvoir observer ça, mais pas Lisa en tout cas.
Et puis toujours sur ces deux missions validées par l'ESA, l'autre mission Plateau, avec, on l'entendait dans le sujet du Journal des Sciences, peut-être là quelque chose qu'on a encore beaucoup de mal à faire, mais détecter les biosignatures autour des exoplanètes, donc là peut-être avancer dans la connaissance éventuellement d'une possible vie extraterrestre.
Alors effectivement, là ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à avoir des éléments sur les atmosphères des exoplanètes depuis quelques années, hein, mais c'est... un petit peu d'eau, un petit peu de méthane, choses comme ça. Là, l'idée, c'est effectivement d'analyser les atmosphères de manière bien plus précise, et d'observer toutes ces biosignatures. Donc là, on va avoir une décennie extrêmement passionnante.
Sur les exoplanètes, Antonio Fischetti, la possibilité de se dire que c'est à portée de main, c'est dans 5-10 ans, si on détecte des biosignatures, peut-être que...
Ah bah c'est formidable, moi j'attends comme tout le monde la vie extraterrestre. Hein. Mais moi, chaque fois que j'entends parler des ondes gravitationnelles, enfin je suis aussi stupéfait quand même par le pouvoir de prédiction des théories, quand on pense quand même que Einstein a prédit ça il y a une centaine d'années, qu'on ne l'a pas observé, puis que maintenant on arrive à observer des choses que la théorie a prévues. Ça me vraiment... Je trouve ça le pouvoir de l'esprit totalement formidable.
Caroline ?
Oui, sur la vie quelque part dans l'espace, ce qui est extrêmement intéressant, c'est toutes les recherches qui sont menées actuellement sur Terre, sur les formes de vie hyper étranges qu'on découvre et qui sont totalement inattendues, au point qu'on se demande s'il n'y aurait pas même des vies intraterrestres qui seraient à l'origine de la vie sur Terre. Enfin, il y a plein de choses, on va chercher très loin dans l'espace, mais sur Terre, là, en ce moment, il se passe des trucs incroyables sur les formes de vie.
Vous pensez au blob ?
Oui, par exemple.
Oui, il y a des formes de vie qui disparaissent avant qu'on les découvre même.
Aussi,
oui.
Ça, c'est un autre problème lié à la biodiversité. Mon secret.
Où donc ai-je bien pu mettre ce sucre? Vous n'avez pas vu mon sucre?
Voilà la preuve sonore que l'industrie audiovisuelle nous a vendu pendant des années un modèle de chien toxicomane pour nous encourager à manger de plus en plus de sucre. Trêve de plaisanterie, hein, comparer le sucre à une drogue, c'est pousser le bouchon un peu loin, allez-vous me dire? Eh bien, pas du tout, comme en atteste le dossier que vous consacrez dans le Science et Vie du mois de juillet, Caroline, aux dangers avérés et aux nombreux mensonges, surtout, qui entourent l'histoire de l'industrie sucrière.
Oui. C'est un dossier, une enquête qu'a menée Yves Siama pour Science et Vie, autour du sucre. C'est l'idée aussi de faire un peu le point sur ce qu'on entend autour du sucre. Alors, l'idée dominante, toujours, c'est quand même que le sucre, on peut en prendre, c'est un petit plaisir, il n'y a pas de mal à se faire du bien, et qu'au fond, si on n'a pas de problème de poids, on peut manger du sucre, il suffit de manger un peu de tout. Ce que Isyama explique dans son dossier, c'est que il ne faudrait pas prendre le sucre pour les calories du sucre pour les calories comme des calories comme les autres. Il y a actuellement une hypothèse, une théorie qui est partagée par beaucoup de nutritionnistes, de médecins, qui est calorie-centrique, c'est-à-dire une calorie de sucre égale une calorie de gras, une calorie de protéines. Et il y a des médecins qui s'insurgent contre cette vision et qui disent pas du tout. Il faut considérer le sucre comme un toxique qui agit sur les hormones via l'insuline notamment, et qui va perturber le métabolisme. Et donc, il n'est pas question d'avoir un nombre de calories à prendre par jour dans lesquelles on ferait varier avec du sucre, du gras. Non, et le sucre doit être mis à part, on doit le compter à part, parce qu'il est toxique.
Et on voit notamment, alors il y a plusieurs choses, c'est effectivement assez passionnant et assez effrayant à la fois. Déjà, quelque chose sur le plan évolutif simple, c'est que finalement, depuis les débuts de l'humanité, l'humanité a consommé extrêmement peu de sucre pendant 99% de son histoire. C'est très très récent, les apports massifs en sucre dans notre alimentation.
Mais oui, pendant très longtemps, manger du sucre, c'était quelques semaines ou mois dans l'année quand on avait accès à des fruits bien mûrs, et puis le reste du temps, pas du tout. Donc la nature avait fait le sucre extrêmement rare, l'industrie l'a fait extrêmement répandu, et notre corps, il n'a pas eu le temps de s'y habituer. Et c'est vrai que nos consommations de sucre ajouté, donc de sucre qui est rajouté dans les aliments dans lesquels on peut penser d'ailleurs qu'il n'y en a pas quand on les consomme, c'est devenu un problème de conflit entre une évolution lente de notre organisme et une évolution rapide de nos habitudes alimentaires.
Ça a changé il y a une cinquantaine d'années en fait, avec l'explosion de l'agroalimentaire, et l'agroalimentaire, grâce au prix de revient très très bas du sucre, c'est très facile, le sucre de cale, le sucre de betterave, a commencé à en mettre partout.
Oui, c'est un produit extrêmement intéressant parce qu'il est facile à produire maintenant, très peu cher, vous l'avez dit, il a plusieurs intérêts pour la texture, pour le goût, même pour la conservation, donc a priori le sucre est un excellent candidat à ajouter à des tas de produits. Encore une fois, les hypothèses, les théories sur la toxicité du sucre, elles ont commencé à émerger il y a déjà un paquet d'années. Mais pendant longtemps, on n'en a pas entendu parler. Là, ce qui se passe, c'est plutôt qu'il y a une sorte de trop-plein. La sucrière est pleine, et on entend vraiment de plus en plus ces voix discordantes par rapport au discours classique du sucre. Le sucre n'est qu'une calorie, rien d'autre.
Et avec des enjeux économiques énormes, puisque le prix du sucre aujourd'hui est tellement bas qu'il y a de nombreux pays, par exemple, dans lesquels les boissons sucrées sont moins chères que l'eau minérale.
Oui. Ça m'est arrivé tout récemment à la gare du Nord. Il y avait un soda qui était beaucoup moins cher qu'une bouteille d'eau minérale.
Donc l'encouragement, voilà. On voit ce que ça fait. La France, par ailleurs, est le premier producteur européen de sucre avec 2,8 millions de tonnes par an. Aujourd'hui, on efface en tout cas, et surtout, alors l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, recommande 25 grammes de sucre maximum.
C'est le seuil idéal, ça. 25 grammes, ce serait idéal. Ça fait à peu près 4 morceaux de sucre. Actuellement, la recommandation, c'est plutôt autour de 8 morceaux de sucre, mais l'OMS a commencé à faire bouger les lignes et dit ce qui serait mieux, c'est 4 morceaux de sucre par jour. Bon, c'est très vite atteint, hein. On réalise qu'un soda, c'est vite fait. Enfin,
un soda, c'est, pour ne pas citer de marque, c'est vite fait, ça peut être 8 à 10 ou à 12 morceaux de sucre.
Ça dépend du soda, mais
selon les sodas, ça va très très vite, ça monte très haut. Un yaourt, les jus d'orange ou jus de fruits avec sucre ajouté.
Tout ce qui est nectar avec sucre ajouté aussi. Et puis il y en a aussi dans des endroits où on ne s'y attend pas. Si on lit les petites lignes derrière les boîtes de conserve de petits pois, de ratatouille, vous verrez qu'il y a du sucre ajouté. Donc encore une fois, on en consomme sans forcément s'en apercevoir. On a l'impression que si on n'a pas de problème de santé, pas de problème de poids, au fond, ce n'est pas un problème. Encore une fois, c'est juste un petit plaisir, ce n'est pas grave. Là, vraiment, il y a un fond, une tendance scientifique pour dire que non, le sucre, c'est pas un aliment comme les autres.
Et on est aussi face à des chiffres de surconsommation qui sont gigantesques. On parle d'un tiers des hommes qui consommeraient 100 grammes de sucre par jour, donc c'est 4 fois plus que la recommandation de l'OMS, et un enfant sur 5 de moins de 10 ans.
Oui, c'est des chiffres de l'ANSES, si je ne me trompe pas, les derniers chiffres de l'ANSES. Donc on est nous en France aussi concernés. On fait pas partie des pays les plus concernés. Aux États-Unis, au Mexique, là ça bat des records incroyables. Mais en France, la situation, elle est encore... problématique, parce qu'en effet l'ANSES suit l'OMS qui et l'ANSES est aussi elle reste vraiment sur cette théorie de la calorie centrique. On est encore vraiment à un moment
sur l'idée qu'une calorie de sucre est égale à une calorie de gras ou à une calorie de n'importe quel type de calorie.
Cette bascule dans les connaissances n'a pas été encore effective, et donc dans les recommandations on n'est pas encore à un moment où c'est pris en compte. Bon, mais c'est controversé en même temps, c'est ce qu'explique bien le dossier d'Ifsiama, c'est que on n'est pas face à un boulevard, on n'est pas au moment où c'est bon, c'est définitif, tout le monde est sûr que la toxicité du sucre, elle est avérée. Il y a un débat. Le problème de ce débat, c'est qu'il est biaisé par le financement de la recherche. Alors là, ça devient une vieille lune, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle d'agroalimentaire ou même de médicaments, on s'aperçoit que c'est un problème. Et là, il y a des études qui ont été publiées en 2016 qui montrent bien, en faisant une revue des publications qui montrent toxicité ou pas toxicité. On fait une revue. Les publications qui montrent qu'il n'y a pas de toxicité ne sont pas financées par la recherche majoritairement, mais vraiment de façon écrasante. Et ceux qui montrent qu'il y a toxicité...
C'est l'inverse.
Vous avez compris bien là-bas. Même moi, je me trompe. C'est ça. Donc, pas toxique, pas financé. Pas toxique, financé. Toxique, pas
c'est
financé.
Ça. Voilà. C'est quand les études qui prouvent que le sucre est toxique ne trouvent pas de financement, alors que, évidemment, les autres... Il y a même quelques scandales. Un scandale en 67. Trois chercheurs influents d'Harvard qui ont été payés pour incriminer artificiellement les graisses au détriment du sucre dans les maladies cardiovasculaires.
Ça a été démontré, ça a été publié depuis, c'est tout. Mais la publication qui remet en cause cette étude historique qui sert de socle pour beaucoup de recommandations, cette remise en cause, elle est toute récente.
Il y a quelques études qui concernent également la question de l'addiction, et ça c'est aussi assez effrayant, notamment une étude, une expérience avec des souris qui montre que quand on leur propose du sucre ou de la cocaïne, et ben les souris préfèrent
le sucre. Ça, c'est toute une série d'études qui sont menées par Serge Hamed au CNRS à Bordeaux. On a déjà fait plusieurs articles sur son travail à Science et Vie depuis une dizaine d'années. Bon, ses travaux sont sérieux, c'est quelqu'un qui est sérieux, qui publie, mais encore une fois, lui, il est très controversé. C'est-à-dire que l'idée qu'il y ait une addiction au sucre qui soit liée à la substance sucre est remise en question. Ce qui semble clair, enfin en tout cas partagé, c'est qu'il y a une addiction peut-être sans substance. Autrement dit, on est addict au goût, on est addict à une habitude au sucre, mais peut-être pas à la substance sucre. En tout cas, c'est ceux qui ne sont pas d'accord avec Serge Hamed qui disent ça. Mais c'est extrêmement intéressant. L'idée de l'addiction au sucre en tant que substance, c'est vrai que c'est l'effervescence scientifique autour de ce sujet.
Alors, il y a différents types de sucre. Le sucre qui est le plus incriminé, c'est le sucre que l'on trouve, le sucre de consommation courante, c'est-à-dire glucose plus fructose. C'est quoi les problèmes physiologiques avec ce sucre courant-là?
Disent
les études, en tout cas, qui incriminent ce glucose fructose.
Le sucre avec ce qu'on appelle le fructose, c'est un mot qui devient un peu un mot valise. Le fructose, c'est aussi la forme de sucre qu'on trouve dans les fruits, mais il y a aussi du fructose produit artificiellement à partir, par exemple, de sirop de maïs. On peut trouver ça, des noms différents sur les boîtes, des emballages, des produits qu'on achète. Il y a des tas de noms pour dire, en fait, sucre. Et ce sucre-là, le problème, c'est que donc il vient perturber le métabolisme hormonal via l'insuline. Et donc, il vient empêcher notamment les adipocytes de fonctionner normalement. Il vient empêcher le foie de fonctionner normalement. Il viendrait aussi perturber le système cardiovasculaire. Il y a des études qui montrent que quand on consomme un soda sucré par jour, les risques de crise cardiaque augmentent de 15%. Donc il y a des tas d'études qui montrent qu'au fond, le sucre, via l'action hormonale, la perturbation hormonale, agirait un peu à tous les étages du corps humain.
Bon, alors le contre-argument à ça, c'est de dire qu'aujourd'hui, finalement, plus on avance, plus la science finit par trouver tout toxique, c'est-à-dire qu'on peut plus rien manger, qu'il faut que tout devient dangereux. Enfin, bref, c'est le sucre aujourd'hui, ça a été les excès d'un certain nombre de graisses ou de cholestérol hier. Alors, qu'est-ce qu'il faut vraiment croire là-dessus? Parce que de l'autre côté, on dit vous citez dans le dossier certains scientifiques qui disent, mais on est face à un scandale vis-à-vis du sucre. sucre qui va être l'équivalent de ce qu'a été le tabac il y a 30 ans.
Oui, alors c'est ceux qui sont vraiment montés sur la barricade. Là, vraiment, ils sont très très énervés. Ils trouvent que, ils ont l'impression que ils ont crié dans le désert pendant trop longtemps, que les financements dont on parlait des études font que leur voix a été étouffée pendant trop longtemps. Pour eux, on est face à un scandale comme le tabac. Ouais, c'est la métaphore qu'ils filent. Là, on peut plus rien manger. Bah, c'est-à-dire que, comme vous le disiez, ça a été très rapide. On mangeait des choses qui étaient adaptées à notre métabolisme et à ce que l'évolution avait fait de notre corps. Et puis tout d'un coup, tout a changé. Donc non, on ne peut pas plus rien manger. Il y a plein de choses qu'on peut manger. Simplement, tous les produits transformés dans lesquels beaucoup de sel a été ajouté. Là, par exemple, sur le sel, il y a eu un travail qui n'est pas terminé, mais qui a été fait. Ça a été démontré. Le sel pose des problèmes cardiovasculaires. Les taux de sel ont diminué. Le sucre, bah, peut-être que ce sera le prochain combat. C'est pas qu'on ne peut plus rien manger, en fait. C'est plus qu'il faut manger de façon, moins artificielle.
C'est-à-dire moins de produits transformés, plus de produits qu'on frais, qu'on prépare soi-même.
Prépare soi-même
et éviter,
temps,
évidemment, tout ce qui passe par les réseaux agroalimentaires. Mais c'est tout de même assez saisissant, l'idée de dire qu'effectivement, il y a 25 ans, alors on connaissait des scientifiques, disaient le tabac c'est mauvais, on le sait, on ne l'a pas découvert il y a 25 ans, mais il y a 25 ans, finalement, tout le monde fumait. On fumait avec les gamins, on fumait dans les lieux de travail, on fumait dans les voitures. Aujourd'hui, ça n'est plus envisageable, ça n'est plus acceptable socialement. Est-ce qu'il est, crédible de se dire que dans 20, 25 ou 30 ans, il y aura sur les produits avec forte concentration de sucre des barrières comme il y a aujourd'hui, ou des bannières, des panneaux, des messages d'alerte comme il y a aujourd'hui sur les paquets de cigarettes?
Ça, c'est vrai qu'on ne peut pas savoir, mais ça peut potentiellement prendre le chemin. Ça peut sembler délirant, mais peut-être qu'un jour, donner un paquet de bonbons à son enfant et le laisser piocher dans son paquet de bonbons autant qu'il veut, ça semblera complètement délirant. Il n'est pas certain, encore une fois, on est sur un moment de débat scientifique, que les conclusions nous fassent aller jusque-là, mais on est à un moment où il y aura possiblement bascule.
Oui. Oui, Antonio Fischetti.
Oui, parce qu'il y a aussi un débat sur les édulcorants comme l'aspartame, hein, qui est un ancien débat où il y a eu effectivement pas mal d'études qui montreraient qu'il est toxique. Enfin, moi personnellement, j'ai pas d'idée là-dessus, mais chaque fois que j'ai essayé de creuser, c'était vraiment un sac de nœuds, puisque justement certaines personnes disaient que les études qui montrent que l'aspartame est toxique sont financées par l'industrie du sucre. Finalement, il y a une sorte de guerre d'études et de lobby. Alors, qu'est-ce qui est toxique, qu'est-ce qui ne l'est pas? Je sais pas si vous avez creusé cette question. Question à Science et Vie, si vous avez un avis là-dessus.
Sur les édulcorants, on avait creusé, on est tombé sur le même genre de problème, d'écueil. C'est-à-dire qu'en effet, les financements, et vraiment sur les édulcorants, c'est assez impressionnant. Peut-être encore plus impressionnant que sur le sucre, où il y a eu quand même des études indépendantes qui ont réussi à être financées. Sur les édulcorants, c'est un sac de nœuds.
Ouais. Philippe Pageau.
Oui, pour rebondir sur le logo, là, l'espèce de petite alerte.
Sur la bannière, sur les petits logos comme sur les paquets de
cigarettes. Justement, on a dans notre prochain numéro un entretien avec un épidémiologue, Serge Esberg, qui lui a créé un logo qui s'appelle Nutri-Score, donc qui est une sorte de système de notation conçu qui vise à améliorer, à informer, disons, sur la qualité nutritionnelle de l'alimentation. Et c'est quelque chose qui marche. Hein. On a montré qu'en termes d'amélioration de l'état de santé, ça marchait, mais les industriels sont très très réticents à adopter ce logo.
C'est le logo qui permettrait de lire un peu mieux les apports caloriques qu'il y a aujourd'hui sur les aliments, qui sont effectivement dans l'état actuel des choses relativement indéchiffrables.
Pas uniquement caloriques, hein, vraiment l'ensemble
des apports nutritionnels.
Nutri-Score, c'est le bon exemple. C'est-à-dire que c'est une façon d'informer très simplement. Parce que quand vous faites vos courses, c'est quand même un vrai casse-tête. Quand on veut chercher le taux de sucre, le taux de sel, c'est pour 100 grammes, c'est pour une part, c'est pour un gâteau, on s'y perd complètement. Nutri-Score, c'est simple. C'est une couleur qui correspond à un niveau plus ou moins bon de l'aliment en général dans votre régime alimentaire. C'est simple, c'est direct. Typiquement, c'est le genre de choses que l'industrie agroalimentaire n'a pas tendance à
favoriser.
Alors, ils sont en train de changer. Là, le vent a tourné. Le vent a tourné et beaucoup d'industriels commencent à prendre en compte une demande aussi, c'est-à-dire une demande du public qui veut pouvoir faire ses choix, peut pouvoir être informé et puis lever la part de doute à chaque fois qu'on pousse son chariot dans les rayons.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Chaque travail, il est bien frais et toujours un peu une corvée qui vous donne du souci, tant mieux, tant pis. Mais chaque ouvrage peut contenir, selon vos voeux, un peu de plaisir. C'est votre désir et de toujours sourire. faut de sucre. Un petit morceau de sucre, petit morceau de sucre. La vie est moins amère avec un petit morceau de sucre. Un petit carré de sucre. Le pain s'en fait son nid douillet sans prendre le temps de s'arrêter. Il va et vient volant par-ci par-là. Pourtant, voyez comme il est gai. Il siffle à bout coupé le sifflet. Ce qui fait que partout, travaillez bien plus doux. La vie est moins amère avec un petit morceau de sucre. Un petit morceau de sucre, petit morceau de sucre. La vie est moins amère avec un petit morceau de sucre. Un petit carré de sucre.
Voilà, Mary Poppins, Pollux, nous avons tous été conditionnés à devenir toxicomanes au sucre. C'est le petit morceau de sucre chanté par Christine Legrand, la voix française de Julie Andrews dans Mary Poppins. Et puis je rappelle, puisque évidemment le dossier consacré au sucre dont nous avons parlé à l'instant avec Caroline Tourbe, c'est à lire dans le numéro de juillet de Science et Vie, mais vous pouvez également lire le très bon et très inquiétant livre de Bernard Pellegrin, Sucre, enquête sur l'autre poudre, publié aux éditions Talendier, pardon, qui va effectivement dans le sens de ce que nous venons de dire. Pour l'heure, il est 16h35, c'est notre table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche que vous pouvez suivre, comme toujours, en parallèle sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. Après le sucre, eh bien un vieux rêve, une vieille lubie de l'informatique, un ordinateur qui va aussi vite que la lumière. Parce que c'est vrai, hein, finalement, quoi de plus efficace qu'un photon ? C'est la particule la plus rapide, elle ne crée aucune interférence électromagnétique, mais voilà, le rêve d'un ordinateur photonique a fait long feu, Philippe Pageau. Hein. Mais tel le phénix, nous sommes en train de voir que peut-être, ce rêve est en train de renaître de ses cendres.
Effectivement, alors c'est vrai qu'on a consacré un long dossier dans notre numéro d'été de juillet-août à la lumière. La lumière, là, en fait, en informatique, mais pas uniquement en chimie, en biologie, en physique. Et vous allez me dire, justement, qu'est-ce que vient faire la lumière en informatique, hein,
Qu'est-ce que vient faire la lumière en informatique,
On traite plutôt des électrons et pas de photons habituellement. Mm-hmm. Alors d'abord, attention à une petite confusion, ne pas confondre avec l'ordinateur quantique. Avec tout à l'heure, on parlait de superposition quantique et des Chinois qui avaient réussi à faire de la cryptographie quantique à longue distance. L'ordinateur quantique, c'est un rêve également, hein, qui est encore hypothétique. Donc, au lieu de traiter des 0 et des 1, effectivement, on traite de sorte de superposition qui permettrait de faire des choses extraordinaires.
On avait consacré d'ailleurs une émission à l'ordinateur quantique. Voilà. On va vous remettre le lien du podcast sur le fil de Twitter de l'émission.
Donc là, l'ordinateur quantique, c'est l'objet de recherche un peu partout dans le monde et ça frémit un peu partout, mais ça reste très futuriste. Là, ce dont je vais vous parler, c'est un long article qui relate une enquête sur l'ordinateur à lumière.
L'ordinateur photonique.
Alors, c'est une histoire effectivement étonnante et assez ancienne. Les prémices remontent au début des années 60, mais c'est en 1990 en fait que les laboratoires Bell's Labs aux États-Unis présentent le premier processeur qui utilise de la lumière à la place de l'électricité. C'est un composé à cette époque-là assez rudimentaire, constitué de 128 circuits logiques qui fonctionnent à la fréquence de 1 MHz.
À l'époque, 1 MHz, c'est beaucoup. Au début des années 90, par rapport à la puissance de calcul des ordinateurs de cette époque, c'est beaucoup.
C'est beaucoup, mais tout de suite, l'enthousiasme est au rendez-vous et les gourous de la technologie prédisent que les circuits optiques aux capacités phénoménales, qui en plus consomment très peu d'énergie, vont arriver. Donc du coup, c'est un véritable âge d'or qui se déclenche avec des recherches dans l'état de labo, des financements de l'armée américaine, l'agence du Pentagone, effectivement.
La NASA, s'y est mis aussi. Tout le monde était prêt à mettre des sommes faramineuses dans l'ordinateur à lumière.
Et voilà, tous les mois, il y avait un numéro spécial de Applied Optique qui était consacré à ça. Et tout d'un coup, pouf, tout s'est cassé la figure. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est le silicium qui a tué le match avec l'optique.
Pourquoi ça?
Et à partir des années 2000, c'était fini.
Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que le silicium a gagné finalement?
Quel est le secret d'une performance accrue en fait? C'est des transistors plus petits. Donc si on arrive à avoir une densité, les transistors, c'est donc ces unités de calcul de base et des fréquences d'utilisation élevées. Alors on a réussi à justement à partir du silicium, à avoir des densités de transistors énormes. Et l'ironie de l'histoire, c'est justement grâce à des techniques optiques, justement, qu'on a réussi à obtenir des densités de plus en plus grandes. Donc, à l'époque, c'était au début des années 2000, 100 nanomètres, on va dire la finesse des transistors. Aujourd'hui, après, c'est passé à 50, 10. Aujourd'hui, on parle de 7 à 5 nanomètres. Et donc, c'est effectivement la lithographie optique qui a permis cela. Alors en optique, justement, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire des circuits complexes plus petits que la longueur d'onde de la lumière utilisée. Et du coup, on a été complètement dépassé par le système. Ça marchait bien, voilà. Alors en plus, on s'est aussi rendu compte que la lumière n'est pas vraiment plus performante sur le plan énergétique, sauf à l'utiliser sans la faire interagir. C'est ce qui se passe dans les fibres optiques, par exemple.
Voilà. C'est-à-dire qu'elle est très bien pour convoyer de l'information, même sur des très longues distances, mais dès qu'on essaye de faire interagir, ça devient beaucoup plus compliqué.
Alors, bien sûr, effectivement, dans les fibres optiques, on ressent effectivement l'intérêt de cette lumière, et on peut aujourd'hui concentrer des faisceaux. On fait des opérations techniques qu'on appelle le multiplexage temporel, spatial, qui permet de transporter des informations, en fait, avec un débit faramineux. Pour donner un exemple, le câble... Dernier câble transatlantique AE Connect, il a un débit de 13 terabits par seconde, et on devrait arriver à 32 terabits par seconde. Pour donner une idée, c'est plus 100 fois la quantité de données d'un Blu-ray chaque seconde. Alors, si l'optique marche bien pour les transmissions de données, ce qui est le cas, on pourrait imaginer interconnecter des éléments d'ordinateur à l'aide de lumière. Mais là encore, le problème de miniaturisation est délicat.
C'est-à-dire réussir finalement à transmettre de l'information, c'est-à-dire sans la faire interagir, mais à réduire en fait les distances et à transmettre de l'information à l'intérieur même des composants de l'ordinateur.
Voilà, alors ça on commence, on fait des essais, mais ça marche pas très bien. Mais du coup, ce rêve de l'ordinateur optique qu'on avait dans les années 90 semble lointain, tout comme celui de l'ordinateur quantique. En revanche, ce qu'on voit apparaître, et ça c'est justement le phénix qui vient de s'étendre, c'est des coprocesseurs optiques qui sont destinés à des applications bien précises. Alors pourquoi ?
Alors c'est quoi des coprocesseurs optiques déjà ?
Alors pourquoi s'intéresse-t-on à la lumière pour calculer ? J'y reviens, c'est parce que dans la nature, en fait, la lumière, elle manifeste une aptitude à calculer naturellement, sans manipuler de nombres, juste en agissant sur les signaux analogiques. Alors je m'explique, par exemple, vous faites passer un rayon lumineux par une lentille, ce que vous obtenez derrière, c'est un signal qui est la transformée de Fourier du signal initial. Autrement dit, la lentille a fait naturellement une opération mathématique sur la lumière. En entrée, vous avez votre signal, en sortie, vous avez la transformée du signal. C'est ce qu'on essaie de faire, c'est un type d'opération qu'on essaie de faire. Et donc, en récupérant le signal de sortie, vous avez du coup un calcul quasi instantané de votre signal d'entrée. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'un autre développement technique qui est dû cette fois-ci à des développements des projecteurs grand public, vous savez, c'est ces projecteurs avec des matrices de micro-miroirs, on arrive à manipuler effectivement cette lumière et récupérer le signal analogique. Manipuler la lumière haute fréquence, et en combinant lentille et puce à miroir, dans le principe, vous avez le principe d'un calculateur optique, notamment pour faire cette opération de la transformée de Fourier. Et c'est un principe qui est maintenant adopté. Il y a une start-up britannique, Optalysis, qui a produit un coprocesseur optique qui sont sur le point de commercialiser. Donc c'est juste une carte pour PC qui fait des comparaisons d'ADN qui nécessiterait 28 heures dans un ordinateur à haute performance, qui là le fait en moins de 2 heures. Donc c'est quand même assez étonnant.
C'est un rapport de 1 à 10, donc c'est pas mal, ça commence à devenir significatif.
Et avec ordinateur haute performance, donc avec des choses les plus perfectionnées. Voilà. Et il y a aussi plusieurs projets en Europe, aux États-Unis, qui cherchent à utiliser cette capacité de manipulation des signaux analogiques pour des méthodes de calcul entièrement nouvelles. Donc c'est le cas de la météo. La météo, c'est un type de calcul où on manipule
beaucoup d'informations, beaucoup de données.
On appelle ça des systèmes d'équations dérivées partielles, des équations différentielles. Et il y a tout un projet de calcul européen et même international qui vise à utiliser de la lumière pour faire ces calculs. C'est le cas en intelligence artificielle, où on cherche à utiliser également des signaux lumineux introduits dans une fibre optique bouclée sur elle-même pour faire de la reconnaissance vocale très rapidement. Également pour traiter des données massives à l'heure du big data. Donc c'est quelque chose qui arrive petit à petit dans des marchés un peu de niche. On peut vraiment dire que l'information quantique renaît aujourd'hui. Ça me fait penser à ce qui s'est passé pour les GPU et l'intelligence artificielle. Vous savez que l'intelligence artificielle, elle s'est développée beaucoup parce qu'on avait des cartes spécifiques qui sont des cartes qui étaient utilisées en fait dans les consoles de jeux, qui multipliaient en fait, parce que dans une console de jeux, vous utilisez beaucoup de ce qu'on appelle de multiplication de matrices, multiplication de tableaux de nombres. C'est utile parce que pour que les jeux aillent vite sur l'écran.
La puissance de calcul.
la puissance de calcul,
quelque sorte, voilà, la puissance de calcul vidéo, pour être
vidéo, et en fait, ça a été ensuite détourné et utilisé aujourd'hui en intelligence artificielle, en machine, ce qu'on appelle le machine learning. Mm-hmm. Et si le machine learning s'est développé autant, c'est grâce à ces développements des GPU. Et là, on peut dire qu'il y a beaucoup de développements qu'on attend effectivement de ces développements qui vont arriver.
Et il y a un autre chercheur qui se penche du coup aussi également sur cette création d'ordinateurs photoniques via une nouvelle branche de la science des matériaux qu'il appelle la plasmonique. Qu'est-ce que c'est que la plasmonique, Philippe Pajot?
Alors la plasmonique, là c'est un petit peu...
Un petit peu ardu.
Un petit peu technique.
Ça tombe bien, il y a un dossier complet dans le bureau de la recherche.
Voilà, donc alors du coup, effectivement, vous avez une particule métallique qui est éclairée par une source de lumière, et donc ces électrons de surface se mettent à osciller. Donc,
c'est utiliser en fait les propriétés quantiques de l'interaction entre la lumière et les matériaux, et la matière.
Et la plasmonique, c'est une sorte de particule un peu virtuelle. Et à certaines fréquences de lumière, en fait, il y a une résonance dont l'énergie est portée par une particule quantique qu'on appelle le plasmon. Et en fait, en manipulant ce plasmon, en fait, on doit pouvoir faire du calcul quantique. C'est un peu en lien avec les problèmes d'isolant topologique qui avait eu le dernier prix Nobel.
Tout à fait.
Le prix Nobel. Donc, c'est des choses un peu. Mais c'est encore. C'est une idée vraiment en rupture, la plasmonique, avec tout ce qui avait été fait auparavant. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut marcher ou qui peut ne pas marcher.
C'est encore de la recherche fondamentale pour le moment. Un mot, alors, juste pour conclure, ça veut dire que l'ordinateur photonique, on sait que, encore une fois, l'ordinateur quantique, c'est très compliqué pour plein de raisons qu'on a détaillées dans l'émission que nous avions consacrée à cette question et sur laquelle je vais parvenir maintenant. Mais est-ce que pour le moment c'est encore très très utopique? Est-ce qu'on peut imaginer des applications? Est-ce qu'on peut imaginer bientôt des premiers supercalculateurs à base de transistors photoniques? Ou est-ce que
Il y en a
dans combien de temps?
Celui que je viens de vous décrire, effectivement, il fait du calcul photonique. Il est commercialisé cette année. Donc cette année, il y en a. Donc là, dans les 2-3 années à venir, ça c'est quelque chose qui a vraiment démarré, contrairement à l'ordinateur quantique qui est un peu plus lointain, on va dire.
Donc l'ordinateur photonique sera peut-être chez vous, dans votre appartement, à la place de votre vieille tour en silicium, dans les prochaines années, bien plus tôt que les ordinateurs quantiques.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Il est 16h45, vous écoutez La Méthode Scientifique, dernier sujet de cette table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche. On a parlé tout à l'heure longuement du scandale du sucre. Et bien un autre scandale qui sous-tend la recherche pharmaceutique depuis plusieurs années, Antonio Fischetti, c'est le scandale de démarches expérimentales misogynes qui exclut de facto les femmes des essais cliniques au détriment des hommes. Racontez-nous ça.
Eh bien, quand on va chez le médecin et on prend des médicaments, normalement, ces médicaments sont testés, étudiés en laboratoire, d'abord sur des animaux et ensuite sur des humains. Donc, voilà, c'est la démarche habituelle. Eh bien, il se trouve que, d'abord, quand on fait les tests sur les animaux, ce sont généralement sur des rats, et sur des rats mâles plutôt que sur des rats femelles. Donc pourquoi déjà?
Oui, c'est ça. Pourquoi? Pour quelle raison?
Tout simplement parce que les rats sont des mammifères. Elles ont des cycles menstruels comme les femmes, et on peut pas prendre forcément, disons, si on prend une dizaine de rats, elles vont pas être au même moment de leur cycle menstruel. Donc, ce qui fait que ça introduit un paramètre supplémentaire. Et c'est difficile à gérer. Donc, il faudrait prendre beaucoup plus d'animaux. Et par souci d'économie, les laboratoires réduisent donc ce paramètre et prennent donc des rats, des animaux mâles. Et ça a été montré notamment par une étude de chercheurs américains qui ont passé au crible des centaines d'articles scientifiques. Alors, leur conclusion, c'est que 40% des études médicales sont effectuées uniquement, alors ça c'est pour même quand c'est pour les humains, donc la deuxième étape
c'est sur les essais cliniques.
40% sont effectués uniquement sur des hommes, et dans les autres cas restants, quand il y a des femmes qui sont aussi étudiées, on mélange les résultats hommes-femmes, alors que on pourrait très bien justement imaginer, ça c'est tout à fait démontré, que les traitements sont pas les mêmes forcément pour les hommes et pour les femmes. Et pour les antidouleurs, c'est encore pire, puisque 79% des antidouleurs ne sont testés que sur des hommes. Donc, et ça a amené l'Académie de médecine, l'an passé, à publier justement un rapport sur la santé la parité.
Oui, genre la parité en santé.
La parité en médecine. Hein. Mmh. Donc, on parle beaucoup de parité en politique, hein, tant mieux. Mmh. Il y a des progrès dans ce domaine, mais dans le domaine médical, on en est encore loin, justement. Mmh.
Hein. Et ce rapport de l'Académie des sciences plaide hein, pour le fait de passer d'une médecine indifférenciée à une médecine sexuée, parce que ces tests-là, ça a des conséquences réelles, des conséquences mesurables et des conséquences lourdes, notamment le fait que, sur les médicaments, finalement, les femmes sont deux fois plus sujettes aux effets indésirables et aux effets secondaires de ces médicaments que les hommes.
Oui, alors il y a plein d'effets, c'est-à-dire, bon déjà, les maladies sont pas forcément les mêmes, et même pour une même maladie, par exemple, il y a des études, enfin des troubles cardiaques, hein, qui ne prennent pas la même forme chez les hommes que chez les femmes. Et puis, alors le problème, c'est qu'on part du principe que ce qui est bon pour les mâles, hein, aussi bien chez les animaux que chez les humains, l'est aussi pour les femelles. C'est en cela qu'il y a du machisme, hein, alors qu'on sous-estime l'importance qu'il faudra accorder, disons, à cette médecine différenciée. Et puis, ça a aussi des effets, même pour les produits toxiques de l'environnement, en dehors de la médecine, hein, tous les polluants qu'on ingurgite en longueur de journée sont aussi normalement testés, ils ne le sont pas tous, mais même quand ils sont testés, ils le sont sur des mâles.
Donc, sur les perturbateurs endocriniens, on voit que les effets, effectivement, ne sont pas les mêmes. Or, il y a un certain nombre de choses, vous le disiez à l'instant, Antonio Fischetti, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, déjà, il y a des différences génétiques pour donner des chiffres, hein, il y a 98,5% de patrimoine génétique commun entre un individu mâle et un individu femelle dans la race humaine, entre un homme et une femme. 98,5%, c'est la même différence qu'il y a entre un être humain et un chimpanzé. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie différence génétique qui n'est pas du tout prise en compte par la recherche médicale et par la recherche pharmaceutique.
Eh oui, pas du tout. Alors bon, après, les différences génétiques, il suffit même qu'elles soient très faibles pour avoir de grandes conséquences. Hein. Donc, pour les prendre en compte, il faudrait effectivement faire des tests beaucoup plus coûteux. Donc si on les fait sur des animaux, prendre un échantillon beaucoup plus grand, donc prendre des animaux femelles, donc en plus grand nombre, hein, pour que ce paramètre lié au cycle hormonal soit maîtrisé. Et puis ensuite, il faut séparer donc les études entre les hommes, les femmes, analyser séparément. Donc voilà, ce sont uniquement des questions de coûts que les laboratoires pharmaceutiques veulent économiser.
Et aboutir à une vraie médecine sexuée. On peut préciser aussi que ce rapport de l'Académie nationale de médecine indique que la France, par rapport aux autres pays, a 10 ans de retard en la matière. Caroline, une réaction à ça ?
Oui, on avait consacré un gros dossier à ce sujet-là il y a 3 ans, vraiment sur l'inégalité homme-femme dans l'accès aux médicaments et à des bons médicaments, et on avait relevé plusieurs histoires assez incroyables. Il y a dans les années 2000 des essais qui ont été menés pour vacciner contre l'herpès. Ces essais ont été menés, comme expliquait Antonio Fischetti, avec des groupes dans lesquels il y avait des hommes et des femmes. Résultat des premières phases d'essais, le vaccin est extrêmement efficace chez la femme, 73% d'efficacité chez la femme, 0 chez l'homme. Et le résultat de tout ça, c'est que le vaccin, il a été abandonné. Il n'a pas été développé, on n'a pas poursuivi plus longtemps ces résultats. Il y a des tas d'exemples comme ça qui sont aussi assez énervants, pour ne pas
dire
plus.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Il y a un autre exemple aussi, c'est sur les sondes qui permettent de détecter les cancers colorectaux. On s'aperçoit quand on observe la zone dans laquelle le cancer colorectal a plus tendance à se développer, que chez l'homme, il a plus tendance à se développer proche du rectum, alors que chez la femme, c'est plus loin. Et résultat, les sondes, elles sont trop courtes. Et résultat, les femmes, le dépistage est moins bon pour elles que pour les hommes. La technique utilisée, l'appareil utilisé n'est pas adapté à la morphologie des femmes et au cancer colorectal chez les femmes. Il y a des tas d'exemples comme ça, et c'est vrai, c'est un scandale.
Vous êtes bien de le dire. Et puis, on peut préciser par ailleurs qu'on se rend compte aussi aujourd'hui, et surtout avec les progrès faits en épigénétique, que plus ça va, et plus effectivement, il faut aboutir à une médecine différenciée, parce que tous les marqueurs épigénétiques sont aussi différents chez l'homme et chez la femme, et que on voit que sur certaines maladies qui sont plus propre à l'homme ou plus propre à la femme, eh bien les réponses médicamenteuses ne sont pas les mêmes.
C'est-à-dire que c'est paradoxal. On est face à une industrie, à l'industrie pharmaceutique qui tend à vouloir nous proposer des traitements individualisés de plus en plus chers qui seraient bons pour un individu ou un petit groupe d'individus mais pas un autre. Et alors là, on est face à un problème qui n'a pas été résolu pour des raisons d'argent, d'investissement qu'on peut comprendre, mais où il suffirait juste de se pencher sur le cas des femmes pour leur proposer une médecine et des médicaments adaptés, et que ça, c'est même pas fait. Donc c'est paradoxal.
Oui, Philippe Pagin.
Un autre problème qui n'a pas été résolu, et c'est également un dossier que nous avons dans le numéro d'été, ça tombe bien, voilà, c'est la crise de la reproductibilité dans les domaines, notamment médicaux. Hein, donc, ce qui est intéressant, ce sont les laboratoires pharmaceutiques qui soulèvent ça. Donc, on s'aperçoit que, par exemple, en 2011, Labo Bayer montrait que sur 67 publications importantes en oncologie, gynécologie et cardiologie, 21% seulement des publics étaient entièrement reproductibles. Donc, il y a aussi cette crise et cette difficulté, en fait, à traiter cette matière qu'il faut prendre en compte.
Antonio Fischetti.
Oui, c'était juste pour rebondir effectivement sur ce que disait Corinne Tourbe, c'est-à-dire que d'une manière générale, ça c'est un exemple aussi du sexisme en science, c'est-à-dire là il s'exprime dans le cas médical, mais quand on creuse dans d'autres domaines aussi, on l'observe par exemple le comportement animal, l'étude du comportement animal, c'est aussi un exemple assez connu, hein, que les chercheurs qui étudient par exemple les animaux, aussi bien les primates que d'autres animaux, souvent s'intéressent au comportement des mâles, beaucoup plus que celui des femelles. Ça a été aussi observé dans, disons, les biographies qu'on consacre aux chercheuses, qui sont souvent beaucoup moins fouillées, même si leurs travaux sont aussi importants que celui de chercheurs masculins. Donc il y a un sexisme, malheureusement, de la part des scientifiques, du milieu scientifique, qui est souvent inconscient, évidemment, puisque... Mais voilà, il y a quelque chose d'inconscient qui s'exprime à travers tout cela.
Caroline ?
Pour revenir sur les médicaments, il faut peut-être pas désespérer. La prise en compte et le fait de recenser ces différences hommes-femmes a quand même fait bouger les lignes. C'est-à-dire que il y a 3 ans, on n'en entendait vraiment pas parler. L'Académie de médecine nous avait répondu pas grand-chose. Et là, il y a un rapport. Les choses ont bougé en France.
Bien sûr, parce qu'en fait, c'est un vieux problème, effectivement, qu'on ignorait pendant très longtemps. L'Académie de médecine, enfin l'a reconnu. Donc il faut régulièrement y revenir pour que les choses bougent dans les labos à court terme.
Et c'est ce que nous venons de faire autour de cette table. Il reste quelques minutes avant la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a d'autres actualités scientifiques dont nous n'avons pas parlé et qui vous semblent importantes à suivre dans les semaines, dans les mois à venir ou quelque chose... Oui, Philippe Pajot ?
Oui, alors c'est pas tout à fait dans les mois à venir. C'est une éclipse de soleil qui aura lieu le 21 août prochain, 21 août 2017 aux États-Unis. Donc une éclipse totale qui va traverser l'intégralité du territoire des États-Unis, une diagonale de 4000 km. Il y a sans doute 100 millions à 200 millions de personnes sans doute qui vont pouvoir la voir, parce qu'il y en a pas mal qui habitent là, donc ça va être un
beau moment d'observation du ciel.
Voilà, les Américains ont profité et ont augmenté le tarif des locations sur la ligne de centralité. Moi, j'avais réservé il y a un an et demi et c'était annulé la semaine dernière.
Il n'y a pas de petit profit.
Voilà, il n'y a pas de petit profit, mais ça va être un beau moment d'astronomie
au cours de l'été à surveiller. Caroline.
Et puis, si vous êtes dans le coin de Besançon, vous pouvez aller visiter. Ils ont ouvert de nouvelles salles, Naturalium. C'est extrêmement bien fait, extrêmement intéressant. On a envoyé une journaliste sur place et elle est revenue enthousiaste.
Mais on va vous mettre le lien également sur le fil Twitter de l'émission. Antonio ?
Moi, je m'intéresse justement à l'histoire, à l'inverse, puisque j'ai découvert dans un livre qui vient d'être publié, là, aux éditions matériologiques, La guerre biologique, et des choses que je ne savais
d'Étienne
pas
au couturier.
Les expérimentations menées par l'armée française en Algérie. On connaissait les tests nucléaires dans le Sahara, mais alors là, les tests biologiques, d'armes biologiques étaient très peu connus. C'est un site qui s'appelle B2 Namous, dans le sud algérien, où ils ont balancé des explosifs avec du choléra, des tas de choses comme ça, et les populations locales ont été contaminées et donc là, ce livre en parle, et l'histoire a été gardée secrète jusqu'en 1997 avec un article du Nouvel Obs, et ce chercheur, donc cet historien, est allé dans les archives militaires et puis il a trouvé en fait très peu de choses, parce qu'il y a des noms de code et on n'arrive même pas à savoir quels sont les virus qui ont été propagés, donc ça c'est une affaire qui commence à me passionner.
La guerre biologique, aventure française d'Étienne Lecouturier. C'est le sujet de votre chronique, par ailleurs, dans le prochain numéro de Charlie Hebdo la semaine prochaine.
Exactement, dans Charlie.
Merci beaucoup à tous les trois d'être venus pour ce dernier tour de table de l'actualité des sciences et de la recherche de la saison, puisque la semaine prochaine, c'est la dernière semaine de la méthode scientifique avant la fin de la saison. Caroline Tourbe, la une de Science et Vie du mois de juillet.
Eh bien, figurez-vous qu'une nouvelle intelligence est née. Ça parle algorithme, ça parle ordinateur, ça parle mémoire, pensée, créativité.
Et puis, dossier sur le sucre qui est passionnant. Je rappelle également ce livre Bernard Pellegrin, Sucre, enquête sur l'autre poudre aux éditions Talendier. À la une du numéro d'été de la recherche, Philippe Pajot.
Oui, donc un dossier sur les pouvoirs de la lumière, donc dans tous les domaines, énergie, informatique, électronique, espace, santé.
Et puis, bien sûr, on retrouve Antonio Fischetti toutes les semaines, l'Empire des sciences, votre chronique scientifique dans Charlie Hebdo, et puis on peut retrouver les meilleurs de ces chroniques publiées chez Belin dans un recueil, Charlie au labo, illustré par Faujour. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Mathieu Lefrançois, Eve Etienne, Elisabeth Miro à la réalisation, Élise Le à la technique, Jean-François Souvillier au droit d'auteur. Et puis la semaine prochaine, eh bien je vous l'ai dit, hein, c'est la dernière semaine de la saison, et oui, on y est déjà. Donc du coup, on a mis les petits plats dans les grands. Lundi, on va vous parler des jumeaux et de ce que l'épigénétique nous en apprend. Mardi, nous partirons à la chasse aux orages et à la physique derrière les éclairs. Mercredi, nous nous demanderons si les OGM ont amorcé leur déclin. Jeudi, journée spéciale consacrée aux livres sur toute l'antenne de France Culture. Grande table ronde avec plusieurs intervenants réguliers qui nous se sont succédés tout au long de l'année au micro de la méthode scientifique. On va vous permettre d'emmener les bons livres scientifiques et de science-fiction, les bonnes séries, les bons films dans vos bagages pour les vacances. Et puis vendredi, pour finir en beauté, interview exclusive avec l'un des auteurs majeurs de science-fiction contemporaine. Nous avons la chance de recevoir l'auteur de Spin, Robert Charles Wilson, pour son dernier roman La Cité du Futur chez De Noël. Dans quelques instants, le magazine de la rédaction. On se retrouve lundi 16h, jusqu'à preuve du contraire.